On va repartir dans nos discussions européennes ici depuis le Parlement à Bruxelles. On accueille Roland Gillet. Bonjour, merci d'être avec nous, professeur d'économie financière à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Pas que, vous avez d'autres titres, je crois.
Également professeur à l'ULB et je suis conseiller pour différentes autorités publiques et privées.
Eh bien, c'est parfait, on va vous entendre dans un instant. Mais avant, Jean-Marc Daniel a beaucoup de choses à nous dire sur tout ce qu'il a entendu depuis 6 heures avec lesquelles il n'est pas d'accord. Ce qui vous énerve d'abord, c'est ce que disaient Emmanuel et Nicolas sur l'état de l'économie française, cette déstabilisation.
Oui, il y a deux choses qui me frappent toujours. D'abord, le discours sur la consommation, je rappelle quand même. Et en plus, maintenant, il y a des travaux très renseignés, tout ça. Enfin, je veux dire, il y a quand même des travaux d'économistes, c'est pas uniquement du blabla. Et derrière ces travaux d'économistes, ils montrent bien que la consommation, ce n'est pas un moteur de la croissance. Et que la consommation est relativement inerte et que, sauf des situations extrêmement exceptionnelles, la consommation est stable. Et d'ailleurs, les modèles de référence sont des modèles où les moteurs de la croissance et l'investissement, la politique budgétaire et les exportations. Et donc, le véritable enjeu, ce sera ce que sera la politique budgétaire. Les élections sont dans un mois. Pendant un mois, il ne va rien se passer. Sur le plan économique, aucune décision ne va être prise. Mais un mois, c'est extrêmement court. Vous n'avez pas véritablement d'influence en un mois sur la réalité économique d'un pays, surtout dans un pays où, encore une fois, il y a une sorte d'inertie naturelle qui est en place. L'exemple le plus clair et le plus net dans tout ça, c'est vous regardez sur le long terme les élections. Vous apercevez que l'économie a un impact sur les élections. Mais cela aussi, c'est théorisé, renseigné. Mais les élections ont rarement un impact sur l'économie. La seule fois où il y a eu un vrai impact, c'est en 1981, puisque effectivement, là, il y a eu un programme qui était un programme extrêmement différent. Et il y a eu l'impact le plus immédiat, ça a été des attaques sur le franc. Mais à l'époque, le franc était la monnaie...
Oui. Il était tout seul.
Il était tout seul. Là, on est dans une situation où la monnaie de la France, s'il y a des élections en France, la monnaie de la France est partagée et donc il y a une institution. Et on peut considérer que l'évolution du taux de change à l'heure actuelle est liée autant à la décision de baisse du taux d'intérêt qui a eu lieu la semaine dernière qu'à la décision politique qui vient d'être prise en France aujourd'hui. D'autant plus que là aussi, si vous regardez... une autre dissolution qui était celle de 97, on nous avait annoncé qu'il allait y avoir une attaque sur le franc parce que justement le programme de la gauche de l'époque était extrêmement radical. Il n'y a pas eu de conséquences en 1997 avant l'élection et après l'élection, la vitesse à laquelle Jospin a abandonné une partie de son programme, il a renoncé très rapidement il a annoncé qu'il allait privatiser France Télécom, etc. La seule chose qu'il a conservée, c'est les 35 heures, ce qui fait que quand vous regardez le profil à la fois de la valeur du franc et le profil de la croissance économique en 1997, vous apercevez que l'élection n'a eu aucune conséquence.
Alors, dans ces cas-là, il faut aller regarder ce qu'il y a dans le programme économique du Rassemblement National pour voir ce que ça fera potentiellement sur l'économie française en cas de Premier ministre.
En cas de Premier ministre.
C'est ça que veulent savoir nos auditeurs et nos téléspectateurs.
Il faut regarder.
Il va y avoir un changement quand même, Jean-Marc.
Il faut regarder ce que le Front National va abandonner progressivement dans la campagne, parce que il va pas avoir le temps de tout abandonner, et puis ensuite, si jamais il est aux affaires, parce que l'élément clé, c'est est-ce qu'il part pour gagner ou est-ce qu'il part pour augmenter son nombre de députés. Là aussi, en 97, je rappelle que Jospin avait durci son programme à partir du moment où il a été persuadé qu'il allait perdre. Et puis, sur la base d'un discours, Chirac a pas fait ça au hasard. Donc, si Chirac a dissous, c'est qu'il sait qu'il va gagner. Or, Chirac a perdu. Donc là, l'attitude du Rassemblement National en termes de programme sera aussi une évaluation de la probabilité qu'il fait de gagner ou de perdre. La toute dernière remarque que je ferai, c'est qu'on est quand même dans une phase où je disais qu'il y avait des éléments de protestation dans ces élections, que les écolos auraient dû en profiter, mais cet élément de protestation n'est pas typiquement européen. Je rappelle quand même qu'en Inde, alors qu'on annonçait que Modi allait gagner et triompher, il a perdu.
Enfin, il a gagné, mais pas autant.
Je rappelle qu'en Afrique du Sud, alors que l'ANC met une politique extrêmement panafricaniste, une politique qui se traduit par une hostilité de plus en plus affichée aux États-Unis, à Israël, pour essayer de consolider son électorat, l'ANC a aussi perdu. Donc je pense qu'il y a une... Elle a gagné, comme on dit.
Non, mais
elle
a gagné, mais elle a perdu. Il y a un sentiment anti ceux qui sont déjà au pouvoir.
Voilà, et donc je pense qu'on est véritablement dans une phase au niveau mondial où on sort les sortants. Et là, je conclue là-dessus, on va être comme dans l'année 74, où en très peu de temps, on a perdu le Premier ministre anglais, le Président de la République française, le Président des États-Unis et le Chancelier allemand. Je pense qu'on va faire la même configuration en France dans des conditions moins tragiques, parce que on avait perdu le Président de la République française pour des raisons...
On écoute Marine Le Pen qui, elle, s'apprête déjà à prendre le pouvoir et après on réagit en plateau.
Le message de ce soir, y compris celui de la dissolution... s'adresse aussi aux dirigeants bruxellois. Cette grande victoire des mouvements patriotes s'inscrit dans le sens de l'histoire, qui voit partout dans le monde le retour des nations, des protections, et parce que nous sommes un peuple et voulons le rester, des affections. Elle ferme cette parenthèse mondialiste douloureuse qui a tant fait souffrir les peuples dans le monde. Nous voyons poindre l'aurore d'un nouveau jour pour toutes les nations et les peuples d'Europe.
Oui, un parti catholique réorganisé.
Voilà, on revient en plateau avec nos invités. Est en ligne avec nous François-Mickey Marty de l'Institut Via Voice qui nous dira dans un instant qui sonde l'opinion des Français. Il nous dira ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont pensé de ces élections dans un instant. Mais avant, Roland Gillet, vous êtes belge.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé en Belgique là sur ces élections, sur ces résultats? Comment vous avez analysé les résultats?
De façon assez surprenante parce que il y a eu des sondages qui disaient plutôt que les partis, les gros partis, les socialistes, les libéraux, donc le mouvement réformateur en Belgique, était plus ou moins l'un à côté de l'autre. On ne savait pas qui allait être le premier. Et alors le PTB, qui lui était aussi un gros parti. Alors à Bruxelles, c'est un peu différent. Mais si on prend au fédéral et au régional, sur les grandes régions, sauf Bruxelles, il y a une vague libérale qui est montée bien plus haut qu'on ne le pensait.
Mais vague libérale, pas vague d'extrême droite comme on connaît en France et en Allemagne, c'est autre chose.
C'est le MR, donc le Parti libéral en Belgique qui a gagné, et avec un écart très fort. Et c'est un gros changement en Wallonie, donc dans la partie sud du pays qui parle la même langue que vous.
Ouais.
Parce que là, c'était d'habitude les socialistes et les écolos qui étaient très, très puissants. Les écolos ont fortement baissé. Les socialistes se sont plus ou moins maintenus, ils ont baissé un petit peu. Mais alors, la hausse du MR, donc du Parti libéral, est très significative. Et ça change la donne dans les négociations qui vont se faire au niveau d'un futur gouvernement, sachant que naturellement, et comme toujours, du côté flamand en tous les cas, c'est la droite, parfois évidemment extrême droite j'entends, le Vlaams Belang et la N-VA qui ont largement gagné. Donc je pense que pour l'entrepreneuriat, pour le changement de vision que nécessairement en Wallonie, on est nécessairement très à gauche et qu'on ne peut pas faire autrement, ça va changer les équilibres. Et un parti qui n'existait plus beaucoup en termes de poids, qui est les anciens CDH, qui est devenu les engagés, où il y a une diversité, l'entrepreneuriat est revenu au centre de leurs préoccupations, là aussi, une très très forte progression. À un point tel qu'en Wallonie, les deux ensemble pourraient même avoir une majorité. Je n'ai pas dit que c'est cette majorité-là qui va se dégager, mais en tous les cas, c'est un vrai changement.
Mais là aussi, François-Mickey Marty, vous qui êtes en ligne avec nous, il y a cette idée, sortez les sortants, ceux qui étaient déjà en poste, vous remarquez ce sentiment dans vos enquêtes d'opinion?
Bonjour. Oui, en effet, c'est quelque chose qui est sortez les sortants, et puis au-delà de ça, hein, c'est l'amplification d'un de volonté de contestation des élites considérées comme telles qui ont été au pouvoir depuis longtemps. Donc c'est d'ailleurs ce qui est très frappant dans les résultats que l'on a obtenus hier, hein, c'est-à-dire avec une liste du Rassemblement national avec 31,5%, les autres listes font des scores inférieurs à 15%. Autrement dit, il n'existe pas ou il n'y a pas de structuration d'un champ politique, c'est sans précédent, je crois, depuis le début de la Ve République, hormis la période gaulliste, bien entendu, mais il n'existe pas de structuration du champ politique qui permette, et c'est l'un des enjeux de cette dissolution, qui permette au fond d'affirmer une bipolarisation, voire une tripolarisation claire, et qui offre une forme d'alternance qui, d'une certaine manière, avec des dents guillemets, aille de soi face à une majorité au pouvoir. Donc on est dans une situation qui est probablement inédite, et qui procède en grande partie, en effet, de ce que vous dites, à savoir une contestation, au fond, de toutes les sensibilités politiques qui ont pu exercer le pouvoir au cours de ces dernières années. Et à cet égard, on peut considérer que là aussi, c'est une forme d'échec pour le macronisme qui, au fond, a tenté, depuis ses origines, de se dissocier, de se différencier, d'incarner une autre voie que celle qui avait été incarnée jusqu'ici.
Oui. Situation politique inédite, nous dit François-Mickey Marty, dans l'idée que tous ceux qui ont déjà exercé le pouvoir se retrouvent face à des résultats qui sont mauvais. Situation inédite aussi parce que ces élections européennes ont enfin des impacts nationaux. C'est-à-dire qu'elles ont pris leur importance. Je dis enfin, mais il y a un peu ce sentiment. Est-ce qu'on a compris que c'était plus important presque que le national?
Mais en tous les cas, aujourd'hui, on voit bien qu'au niveau d'Ursula von der Leyen, par exemple, elle est plutôt confortée avec l'idée de dire que ce n'est pas les nationalistes qui vont vraiment la déstabiliser. Alors c'est vrai qu'en France, on a un résultat qui est un peu atypique par rapport au reste de l'Europe, mais si on regarde Mélanie en Italie, si on regarde même ce qui s'est passé dans d'autres pays, dont le mien, je vais dire, les choses se sont plutôt bien passées de manière à contenir, et en Allemagne surtout, si on regarde ce qui étaient les estimations pour l'extrême droite très radicale, donc ils ont plutôt été minimisés. Donc je pense aujourd'hui que clairement, au niveau de l'Europe, l'Europe, il y a une possibilité de renforcer ce qui peut être mis en commun, mais probablement un peu plus à droite que ce qui n'était décidé les années précédentes. Et je pense aussi d'une manière générale que beaucoup d'électeurs, sur le côté, on ne doit pas gérer un État en bon père de famille, même en bonne mère de famille, on ne sait plus ce qu'on doit dire. Ben, il y a des gens qui disent, à un moment donné, on risque d'être dans un ascenseur sans fond et d'avoir des ennuis. Donc d'avoir des gens qui non pas vont faire de l'austérité, mais vont quand même regarder les choses avec un peu plus de discernement, c'est à mon avis, ça sécurise les gens. Et je pense que d'ailleurs qu'en France, on a aussi ce phénomène.
Mais Naouda, cette question du plus petit dénominateur commun aujourd'hui en Europe et qui réduit un peu le champ sur lequel les pays sont d'accord. On est de moins en moins d'accord en Europe. On a vu les dissensions entre la France et l'Allemagne, ce duo qui n'est plus d'accord sur grand-chose. On le voit sur l'union des marchés de capitaux. Franchement, le dénominateur commun entre les deux pays est très faible.
Oui, c'est vraiment l'affaiblissement, pour employer les grands mots, du sentiment européen commun à ces partis traditionnels. Il faut le dire, aussi une redistribution des cartes entre les pays fondateurs. Et aujourd'hui, la France est le pays le plus affaibli. Au sein du groupe des sociodémocrates, c'est le parti social-démocrate italien qui est le chef de file. Au sein des CRE, la droite radicale de Giorgia Meloni, c'est elle qui conduit ce parti. Au sein du parti Renew, qui était un peu le cœur du pouvoir des libéraux, la présidente du groupe parlementaire qui se trouve être la tête de liste en France n'est même pas venue se présenter aux journalistes hier soir, ce qui a suscité un certain émoi en se disant qu'un soir comme ceci, qu'on gagne, qu'on perde, on se présente devant l'opinion publique. Il y a, de ce point de vue, un affaiblissement de la France.
Vous ne bougez pas, Nicolas Dose nous dira à quel point il n'était pas d'accord avec ce qu'a dit Jean-Marc, qui lui-même n'était pas d'accord tout à l'heure, parce qu'il y a du débat sur ce plateau et qu'on est nombreux à suivre cette élection européenne depuis le Parlement ici à Bruxelles.